troisième année que la Dépêche du Midi vous donne rendez-vous ici sur la Foire au Sport à l'invitation des organisateurs et de Philippe Marcellin, que je remercie, qui est présent avec nous, pour parler d'un sujet de société qui intéresse les membres des associations et les responsables des associations. La première année, nous avions parlé du sport, quel sport pour mon enfant, quel sport faut-il choisir pour mon enfant. L'année suivante, nous avions parlé des adolescentes et du sport. Et cette année, on va parler d'un sujet évidemment qui concerne tout le monde ici, puisque c'est celui des associations. Pourquoi faut-il adhérer à une association ? Pourquoi ai-je intérêt à prendre ma carte dans une association plutôt que de faire mon activité tout seul dans mon coin ? Alors, avant d'aborder le sujet, je vais rappeler quand même quelques éléments qui vous situent le paysage global, n'est-ce pas ? Dans le Gers, la vie associative est particulièrement vivante. Il y a 4500 associations dans le département, ce qui est important. Il y a plus de 35 000 bénévoles. 760 associations sont des employeurs et donc contribuent effectivement à l'emploi dans le département. 14,8% de la part de l'emploi privé, soit 5238 salariés. Donc on voit bien que le poids de la vie associative est très important dans la vie sociale et dans la vie économique. On doit ça, effectivement, c'est d'enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais à la loi 1901 qui a permis, qui a ouvert le droit à chacun de s'associer librement. Une loi qui d'ailleurs est très peu contraignante et très, très libertaire finalement, puisqu'elle permet simplement aux gens de s'associer, qui n'est même pas obligatoire de se déclarer, je crois qu'on ne m'entend plus, qui n'est même pas obligatoire de se déclarer officiellement pour constituer une association. Donc pour parler aujourd'hui de ce sujet, je crois qu'il y a un problème de son là, on ne nous entend plus, je ne sais pas si on va régler le souci. Je patiente, je meuble. En attendant, je voudrais quand même vous présenter les gens qui sont aujourd'hui parmi nous. Alors attendez, on va essayer de régler ce petit souci technique, puisque nous sommes, semble-t-il, voilà. Il semble que le son soit revenu. Peut-être est-ce que c'est dû aux mauvaises conditions climatiques. C'est la première fois aujourd'hui. Me disait, on n'entend toujours plus, voilà. C'est la première fois que la foire au sport se déroule sous la pluie, m'a dit tout à l'heure Philippe Marcellin. Donc peut-être effectivement qu'on n'est pas encore rodé à gérer la sono dans l'humidité. Donc je vous parlais de la loi 1901, effectivement, qui a permis à tout un chacun de s'associer, ce qui aujourd'hui donne un paysage associatif extrêmement varié. Et on n'a toujours pas de son. Allô, allô ? Allô, allô ? Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un complot contre la loi de 1901, puisque quand on parle de la loi 1901, le son se coupe. Donc, je vais peut-être changer de sujet rapidement. Simplement pour vous dire... Allô, c'est bon ? Simplement pour vous dire que cette loi de 1901, effectivement, avait permis à tout un chacun de s'associer et qu'aujourd'hui, le monde associatif représente une très très large palette d'activités, depuis le sport jusqu'à la culture, en passant par le social, le militantisme, etc. Et donc aujourd'hui, pour aborder tous ces sujets, le son revient, voilà. Pour aborder tous ces sujets, nous avons plusieurs invités qui témoignent en même temps de cette diversité. Donc je vous présente Antoine Agostini, qui est vice-président du comité départemental olympique et sportif depuis l'an dernier, mais aussi président du comité départemental de basketball et, à titre personnel, membre de l'Union cyclotouriste Occitaine, pardon, puisqu'il fait du vélo quand il arrête de faire du basket. Voilà. Je vous présente aussi Pierre Dutille, qui est président des Amis du Vieil Auche depuis 2 ans et qui est aussi membre de la Société archéologique du Gers. Pardon. Patrick Roch, qui est représentant du comité départemental olympique et sportif LOCDOS. Pascal Proust, qui est président du groupe Occitain de spéléologie et vice-président du comité départemental de spéléologie et canyoning. Il nous expliquera tout à l'heure peut-être pourquoi ces deux activités se sont associées. Ensuite, Michèle Biard, qui est administratrice et ancienne présidente du planning familial du Gers, une association dont elle nous parlera et qui est très, très militante et très active aujourd'hui dans le département. Nous avons également parmi nous Patricia Kerry-Legrand, qui est déléguée départementale à la vie associative, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, je l'ai bien descendu, DDCSPP. Également, dans ce même service de la DDCSPP, je vous présente aussi Nadine Canton, du service Jeunesse et Sport. Voilà. Donc, pour parler aujourd'hui de ce vaste sujet, bah écoutez, le mieux, c'est encore de rentrer dans le vif et de faire un premier tour de table et de demander à chacun pourquoi avez-vous, chacun, les uns et les autres, adhéré à un moment ou à un autre à une association et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Alors, qui prend la parole en premier? Tiens, on va demander à Philippe Marcelin, puisqu'il est organisateur de la Foire au Sport et je ne doute pas qu'il soit aussi adhérent à une association. Philippe, il faut ouvrir le micro, on a beaucoup de...
J'ai pas l'habitude des plateaux.
Non, c'est vrai, moi non plus, hein, rassurez-vous.
Bien, monsieur Ado, merci de votre participation d'abord et du partenaire presse qui est à Dépêche du Midi, un partenaire important sur la manifestation. Alors, je vais pas monopoliser la parole, simplement, effectivement, Philippe Marcelin fait partie d'une commission qui est de l'Office municipal des sports. J'en suis le président, mais autour de moi, effectivement, j'ai une équipe qui travaille. Cette organisation demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et je voudrais associer toute cette équipe à ces deux jours, et qui, j'espère, sera une réussite comme les autres années. Alors, c'est vrai que je suis adhérent d'une association, forcément, quand on s'implique dans ce genre de manifestation, on défend d'abord des valeurs dont vous aurez certainement l'occasion d'échanger et de témoigner avec vos expériences, vos connaissances. Et aussi, ce qui est important, c'est, je le dis souvent, c'est cette richesse à la fois la connaissance, la compétence et savoir transmettre. Et je crois que c'est autour de ce socle que vous aurez l'occasion de donner votre avis et sûrement de débattre et d'apporter beaucoup de matières. Ce que je tenais à vous dire, c'est d'abord merci à tous les participants ici présents. Merci à notre partenaire, La Dépêche. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Foire au Sport 2013.
Alors, merci. Je pense que c'est important de passer par la case témoignage, effectivement, parce que le témoignage est toujours exemplaire. Hein, pourquoi moi j'ai fait ça et pas autre chose. Donc, Monsieur Proust, pourquoi avez-vous un jour décidé d'adhérer à une association plutôt que de faire de la spéléologie dans votre coin, finalement? D'abord, est-ce que c'est possible? Racontez-nous.
Oui, sûrement, tout est possible, mais pas très sérieux. La spéléologie, entre autres, est un sport un petit peu à risque quand même. Et puis, de toute façon, j'avais besoin de rencontrer des gens pour me former. Donc, j'invite effectivement les gens qui aujourd'hui veulent découvrir la spéléo à venir se former au groupe Occitan de Spéléo. Pour découvrir les milieux souterrains, c'est d'abord une réunion de personnes, c'est un groupe, c'est de la convivialité. Après, c'est du sport. Et puis, al fine, c'est de l'exploration pour chacun d'entre nous, même pour les plus férus, pour les moins férus. C'est aussi de l'exploration, même dans les petites grottes du Gers. Et de toute façon, seul, on ne fait rien dans ce domaine, puisqu'il faut être un groupe hein, pour porter les cordes, porter la bouffe, comme on dit, le matériel, l'acétylène, enfin bref, l'éclairage. Donc, c'est vraiment, vraiment un sport de groupe avant tout.
D'accord. Michel, vous êtes à côté, Michel Biard, le planning familial, quelles étaient vos motivations, vous, d'abord?
Moi, ça date, je suis une vieille fille, hein, ça date des années 70, où il fallait quand même se battre un peu pour faire avancer l'accès à la contraception, à l'IVG, à toutes ces libertés hein, concernant l'autonomie, la sexualité. Donc, j'ai adhéré, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Et par contre, j'ai accepté effectivement sur le Gers d'être présidente à un moment, mais pour moi, dans l'esprit d'être dans une équipe et de continuer à travailler avec d'autres, à faire avancer ces questions de société. Voilà.
Qu'est-ce que ça a apporté? Parce que finalement, vous portez des idées, vous auriez pu les défendre dans votre coin ou avec votre bulletin de vote, mais c'est quoi le fait d'adhérer en plus à une association?
Je ne crois pas qu'on peut défendre ses idées uniquement par le bulletin de vote et tout seul dans son coin. Moi, je suis un farouche défenseur de la loi 1901. Je suis d'ailleurs aussi adhérente d'autres associations. Et je pense que c'est important au niveau notamment de l'éducation populaire, qui est quand même un aspect aussi déterminant. Notre association est effectivement éducation populaire et laïque. J'insiste aussi là-dessus. Voilà. Donc alors, j'y ai beaucoup de satisfaction depuis 70 jusqu'à maintenant.
On reviendra tout à l'heure effectivement sur ces aspects. Antoine Agostini, vous êtes président du comité départemental de basket, c'est-à-dire presque une association d'associations, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, décidément, je ne sais pas si les cieux sont avec nous ou pas, ou contre nous, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc vous êtes, rappelez-vous quand vous avez adhéré la première fois.
Écoutez, pour ce qui me concerne, j'ai adhéré pour la première fois sans le savoir, je pourrais dire, parce que j'avais 7 ou 8 ans, ça remonte aux années 60. J'étais dans un village qui s'appelle Valence-sur-Baïse, que beaucoup connaissent pour son basket. Et j'ai commencé à jouer au basket à 7 ou 8 ans. Je n'ai pas laissé de grands souvenirs dans le monde sportif du basket. Mais par contre, très tôt, vers 10 ans plus tard, je me suis investi dans ce club de basket. Et je dirais que 60 ans plus tard, je suis devenu président du comité départemental de basket.
Voilà. Très bien. On va penser avec Pierre Dutille, qui lui est le président des Amis du Vieil Auge. Donc vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes membre d'une association ?
Ça fait depuis ma retraite, parce qu'il faut considérer que pour adhérer à une association, il faut du temps disponible. Donc ça fait à peu près 4 ans que j'adhère à des associations. Alors je voulais préciser aussi que vu la multiplicité des associations, les motivations peuvent être multiples. Et ainsi, à titre personnel, je m'excuse de parler un peu de moi,
non.
J'adhère à 4 associations différentes. Et pour chacune des associations, il y a des motivations différentes. Par exemple, lorsque j'adhère au tir à l'arc, à l'arc-occitain, je n'ai pas les mêmes motivations que lorsque je suis aux Amis du Vieil Auge. Lorsque j'adhère à une association de défense des résidents des maisons de retraite, ce n'est pas non plus la même motivation que aux Amis du Vieil Auge. Non, je veux dire que à chaque catégorie d'association, il correspond des motivations différentes. Moi, j'ai été attiré par l'histoire locale, et c'est pour ça que j'ai voulu voir de plus près, d'abord en tant qu'observateur. J'ai vu que ça m'intéressait, et donc j'ai mis le doigt dedans, et ensuite j'y suis...
Le bras a suivi.
Le bras a suivi, et voilà. Et maintenant, je me retrouve à la tête de l'association, un peu malgré moi. Voilà.
Alors, ce qu'on constate quand on regarde les chiffres et puis quand on voit la diversité des gens qui sont réunis ici, c'est qu'il y a un très grand dynamisme de la vie associative, un vrai dynamisme. Et paradoxalement, on entend souvent les associations se plaindre de la crise du bénévolat, de la difficulté de trouver des gens à s'engager. Est-ce que cette crise, dont on entend parler régulièrement, elle existe d'abord ? Est-ce que vous en êtes témoin ? Et puis comment vous vivez la chose ? Qui dit quelque chose là-dessus ? Monsieur Roch, du comité départemental olympique et sportif. Est-ce qu'il y a une crise du bénévolat ?
Mais une crise du bénévolat, peut-être pas carrément posée comme ça. Il y a une évolution de la pratique sportive et de la pratique des clubs, ou de la pratique de la vision qu'ont les gens de ce que peuvent apporter des clubs. Et nous avons des gens de plus en plus pressés et qui utilisent les clubs souvent comme un magasin, quoi. On va se servir, on est consommateur d'une activité, on pose les gosses à 2h, on vient les chercher à 5h. Si vous voulez rencontrer les parents, il faut presque prendre rendez-vous quelquefois. On n'a pas le temps de leur parler parce qu'ils sont pris de leur côté, parce que le club a aussi ses activités de son côté. C'est là un peu que ça va pêcher. Et où on va arriver à fixer des bénévoles, c'est avec les parents des enfants qui pratiquent. Il faut arriver à capter ces gens-là, pas prendre des adultes quelque part et leur dire venez nous aider, ça ne marchera jamais.
Alors, est-ce que les choses ont évolué dans le temps, Monsieur Agostini, vous occupez du comité départemental de basket, le basket ça mobilise beaucoup de gens, etc. Est-ce que vous éprouvez cette difficulté dans vos associations respectives ?
Alors, effectivement, dans le monde du basket comme ailleurs, on éprouve de grosses difficultés pour mobiliser les adhérents bénévoles pour s'occuper des clubs, pour s'occuper, pour encadrer. Et je pense, comme l'a dit très justement Patrick Roch, c'est à partir des parents que l'on peut sensibiliser les adhérents au bénévolat, parce que si on n'est pas parent, on se sent moins motivé, on ne peut pas les solliciter comme ça, comme il l'a dit. Donc effectivement, les parents sont un bon relais pour devenir bénévole, mais malgré ça, ils ne se bousculent pas au portillon, parce que beaucoup se comportent comme des consommateurs et peu comme quelqu'un qui veut vraiment s'investir, quoi. Et c'est vrai pour le basket, mais c'est vrai aussi, puisque je vous l'avais dit dans l'introduction, je suis aussi adhérent de l'Union cyclotouriste occitaine, et là aussi, comme ailleurs, on trouve du monde pour faire du vélo, mais beaucoup moins de monde lorsqu'il faut venir tenir le stand de la Foire au Sport.
Oui, Patricia Kerry-Legrand, vous me faisiez signe.
Je voulais simplement dire que, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas moins de bénévoles aujourd'hui qu'hier. Il n'y a pas moins de bénévoles, par contre, ce nombre n'a pas suivi l'évolution du nombre des associations. Il faut savoir qu'en 10 ans, le nombre des associations a augmenté de 20%, alors que celui des bénévoles de 10%. Ce qui fait que depuis ces 10 dernières années, forcément, un écart s'est creusé entre le nombre d'associations et le nombre d'intervenants intervenant dans ces associations.
Est-ce que vous faites un distinguo entre adhérents et bénévoles?
Ah oui, tout à fait. Là, je parle des bénévoles, hein, non et pas vous, ceux qui prennent seulement une carte d'adhésion. Hein.
D'accord.
Par contre, il faut savoir qu'il a un petit peu changé, hein, ce bénévolat, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce bénévolat est de plus courte durée, c'est sur du moins long terme. On s'engage quelquefois pour 3, 4 ans, voire 5, et on s'arrête pour reprendre après plus tard. Bon, ça, ce phénomène-là, on le voit. Par contre, le nombre de bénévoles n'est pas, il est moins important que l'évolution, je le répète, des associations, mais est toujours très, très important. Hein. Il faut savoir que dans les associations, il y a à peu près 23% de la population qui s'engage en tant que bénévole.
Oui. Alors, est-ce que cette difficulté par rapport au bénévolat, elle est éprouvée de la même manière par tous? Alors, il y a les clubs de masse, enfin, de les sports de masse comme le basket, je veux dire, mais les sports plus confidentiels comme la spéléologie, est-ce qu'elles ne souffrent pas plus de ces difficultés que les autres, finalement?
Il est possible que nous ayons une baisse des bénévoles, surtout dans l'engagement, parce que les sports à risque ne sont pas très, très bien perçus, que les lois font qu'il est de plus en plus difficile de répondre à toutes les exigences au niveau sécurité, et que de prendre des responsabilités dans un club à ce niveau-là, c'est quelque chose déjà de très important, quoi. Donc ça peut effectivement un peu effrayer, qui plus est les jeunes, mais même des adultes bien matures. Maintenant, les gens qui sont effectivement engagés dans ces fonctions sont des gens qui sont engagés sur de la longue durée, quoi. Et effectivement, les présidents, trésoriers ou secrétaires chez nous, ou responsables secours, sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Et alors, c'est une valeur sûre pour la formation des jeunes qui arrivent, mais le relais tarde à venir.
Le renouvellement.
On pourrait penser comme ça, oui.
D'accord. Est-ce que, oui, c'est peut-être une difficulté connexe, on va dire, mais de former les gens à prendre la relève, est-ce que ça, c'est un travail que ne négligent pas peut-être les associations parfois, Michel Biard? Est-ce que d'abord les associations militantes à vocation sociale comme la vôtre ont les mêmes difficultés avec ça ou pas?
Oui, au niveau des adhérents, la difficulté, c'est aussi de renouveler les générations. Hein. Donc des filles et des garçons soient militants du planning familial. Mais bon, ça se fait. Par contre, au niveau des bénévoles, ça dépend aussi de la disponibilité. Et c'est vrai qu'il faut éviter le risque qui consiste à n'avoir que des retraités sur des fonctions de responsabilité. Donc ça nécessite un travail en équipe pour que, effectivement, les personnes n'aient pas peur de prendre des responsabilités. Donc c'est un problème qu'on a dans toutes les associations du planning, hein. Qu'on a d'autant plus quand on est association employeur, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que là, on a nécessité quand même d'assurer une pérennité du fonctionnement de l'association. Mais la question de la prise de risque et de la crainte d'être président, trésorier, d'avoir une fonction, est quelque chose qu'il faut arriver à lever, hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'association loi de 1901 est quand même un, un cadre qui est facilitant.
Alors, est-ce que les associations se soucient de ça ? Je me tourne vers le comité départemental de basket, puisque un comité départemental, il a une fonction d'animation de plusieurs associations, par définition. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Et est-ce que vous faites des choses pour que dans les clubs, le renouvellement se fasse, les gens se forment ? Enfin, est-ce que vous avez une politique là-dessus ?
Tout à fait. Au niveau du comité départemental de basket, on travaille énormément sur la formation des cadres. On a des salariés du comité départemental qui interviennent dans les clubs. On a créé un groupement d'employeurs au sein du comité, justement pour avoir des cadres qui puissent intervenir au sein des petits clubs, sans que ce soit péjoratif le terme de petits clubs. Mais ces éducateurs vont donner des cours de basket dans des petits villages qui, sans l'apport du comité, n'auraient pas eu les moyens d'avoir un éducateur à leur disposition. Donc, effectivement, nous intervenons sur... alors, je ne dis pas les grands clubs du département, eux, sont autonomes, même s'ils sollicitent parfois le comité, mais ce sont surtout les clubs dans les petits villages ruraux de notre département qui font appel à nous, et on répond souvent par la positive, parce que sans ça, ils ne pourraient pas exister. Voilà.
Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la loi de 1901, ça a ouvert des espaces de liberté immenses, puisque... On n'est même pas obligé de se déclarer pour être association de fait. Il suffit d'être plusieurs personnes réunies régulièrement pour constituer une association. Que fait l'État dans dans cet espace-là ? Patricia Kerry-Legrand, vous êtes déléguée départementale à la vie associative. Quelle est votre mission exacte et à quoi vous servez aux associations ?
Déléguée départementale à la vie associative, comme son nom l'indique, je suis chargée sur le département de la vie associative, de l'organiser, de la conseiller, de l'informer, de l'orienter. Et nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, d'un thème très, très important et qui sera à étudier dans les années à venir, c'est le thème de la formation. Et en tant que délégué départemental à la vie associative, nous organisons sur le département du Gers des formations destinées aux bénévoles. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, des compétences maintenant nécessaires sont de plus en plus importantes. Les responsabilités à assumer compte tenu d'une société qui s'est judiciarisée font peur à quelques bénévoles. Donc nous faisons des formations pour essayer de pallier ces problèmes-là. Donc à la fois conseil, à la fois développement de la vie associative et à la fois formation des bénévoles.
Voilà. On a l'impression que, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que ces dernières années, la réglementation ne cesse de rajouter des couches aux couches et que ça a l'air d'être de plus en plus compliqué pour les uns et les autres d'avoir à gérer cet afflux de textes et de règlements. Est-ce que c'est vrai ça ?
Ça a toujours été. Hein. C'est le droit français qui fait que, bon, on le sait, les lois et règlements sont très très nombreux. Bon, nous allons maintenant vers une phase dite de simplification. Donc j'espère qu'on va en voir très prochainement les effets sur le terrain.
Les uns et les autres là, qui êtes responsables en charge d'association, comment c'est un sentiment que vous partagez, ça, l'excès de réglementation, la difficulté, l'augmentation des responsabilités, c'est quelque chose que vous éprouvez ?
Oui, je pense que nous en sommes encore là. La simplification, j'espère qu'elle va venir. Ça se complique au niveau des règlements, bon, mais il vaut mieux qu'ils soient bien posés, les règlements, de toute façon, pour protéger les uns et les autres, les organisateurs et les participants, les adhérents. Et nous avons également, en parallèle, la réglementation concernant les assurances, où là également, il faut être très vigilant et bien rester dans le moule, être bien sûr que nous sommes couverts et que nous couvrons nos participants. Quoi. Certains qui partiraient faire du sport tout seul, aller courir, pensent qu'ils sont couverts par leur responsabilité civile. Ils renversent quelqu'un, peut-être qu'ils sont couverts. Ils tombent, ils se font mal.
Ça nous ramène à la
couverture d'un club. Quoi.
Ça nous ramène à la question du jour. Hein. Pourquoi dois-je adhérer à une association ? Si je cours, je peux aussi bien courir dans mon jardin ou dans la nature tout seul. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une carte dans un club plutôt que de courir dans mon coin ?
Là, je crois qu'il y a autant de réponses qu'il y a,
Essayez de me vendre
le truc,
là. Pas de
participants, mais au moins de public concerné.
Oui.
Je veux dire des adultes ou des enfants, voire des handicapés ou des jeunes. C'est pas tout à fait la même chose. Adhérer dans un club, c'est trouver les structures adaptées, c'est trouver des gens compétents, formés et qui ont des diplômes validés pour justement transmettre des savoirs. Quoi.
Ouais. Monsieur Dutil, vous êtes passionné d'histoire. Qu'est-ce que vous avez trouvé aux Amis du Vieil Hoche que vous n'auriez pas trouvé si vous n'y étiez pas venu?
Mais c'est-à-dire, j'ai appris à connaître une ville dans laquelle j'ai vécu depuis 30 ans maintenant, et je me suis aperçu en fait que les rues que je parcourais tous les jours, j'avais jamais levé la tête, j'avais jamais remarqué telle inscription sur telle façade, etc., etc. Ce sont des experts, des passionnés qui m'ont montré ceci, et j'ai voulu transmettre ceci à mes semblables, quoi, si je peux dire ainsi. Et donc, ce sont des passionnés, nous ne sommes pas forcément des historiens, nous aimons notre ville et nous aimons faire partager cet amour à tous ceux qui veulent nous rejoindre, tout simplement. Hein. Par contre, nous avons effectivement l'apport d'experts qui viennent en tant qu'historiens nous apporter des précisions, etc. Mais disons que l'association est ouverte à tout le monde et surtout à ceux qui ne sont pas historiens. Il suffit d'aimer sa ville, d'aimer son patrimoine. Et pour l'aimer, il faut le connaître. Donc, c'est notre prétention de faire connaître le patrimoine qui nous entoure, quoi. Et je pense que l'appel qu'on pourrait lancer au public, c'est venez voir comment ça se passe. Et c'est valable dans toutes les associations, je crois. Avant de s'engager, jeter un œil. Je pense que même avant de prendre une licence sportive, il convient d'aller voir comment ça se passe. Et en tant que spectateur, hein, pas en tant que pratiquant. Et pour notre association, c'est pareil. Et après, le virus vous prend et je crois qu'on ne peut plus s'en défaire. Quoi.
Nadine Canton, vous êtes représentante de la jeunesse et des sports dans le département. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une grande différence entre le monde des associations sportives et le reste des associations? De quoi vous occupez-vous en particulier?
Alors, pour notre part, donc nous, au sein du service, nous gérons l'ensemble des associations sportives et d'éducation populaire, donc qui touchent l'ensemble des publics, que ce soit les jeunes ou les adultes, ou plus avancés en âge. Au sein du service, donc, on est à la fois une source de renseignements et d'informations, que ce soit pour les bénévoles, ou les professionnels qui viennent en recherche de formation, savoir quel type de formation, et on les aide, on les informe sur la qualification existante. Et par contre, ce que je voulais peut-être dire par rapport à l'attrait et l'intérêt sur adhérer à une association, on se rend compte aujourd'hui, en regardant un peu les chiffres, que le département du Gers, si on prend le côté sportif, est un département relativement sportif. En effet, sur le taux de pénétration, on se rend compte que, en ratio nombre de licenciés et nombre d'habitants, en fait, il s'avère qu'il y a plus de 30% de licenciés sur le département du Gers. On est 7e département en France et 1er département en Midi-Pyrénées sur ce taux. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse partie des Gersois qui sont licenciés dans un club sportif. On se rend compte également sur des chiffres au niveau national qu'on a près de 90% des Français, tout public confondu, qui affirment pratiquer une activité physique, qu'elle soit occasionnelle ou quotidienne. Donc on peut voir un décalage entre près de 30% des Gersois inscrits dans un club sportif, près de 90% des personnes qui affirment pratiquer une activité physique. Donc effectivement, il y a un décalage entre les gens qui vont s'inscrire dans un club et ceux qui pratiquent au quotidien. Donc ce que l'on peut-être...
Vous avez tendance à dire à ceux qui n'adhèrent pas, adhérer, ou plutôt comment vous prenez ça en compte?
Si on prend une autre référence, il est parmi les recommandations du Programme national nutrition santé, il est dit qu'il faut que chaque adulte pratique 30 minutes d'activité physique au quotidien et les jeunes une heure d'activité physique par jour. Donc vous comprenez bien que pour arriver en tant qu'adulte ou jeune, arriver tous les jours à pratiquer régulièrement une activité, il faut être fortement motivé, donc c'est très compliqué. L'intérêt d'adhérer à une association, c'est de pouvoir quelque part cultiver toutes les semaines cette motivation pour aller continuer à bouger au quotidien. Donc c'est vrai que le fait d'adhérer à une association, c'est quelque part un gage de à la fois d'être encadré, donc d'avoir un professionnel ou un bénévole formé au sein des fédérations, mais en même temps d'avoir un petit peu cette assurance de pouvoir avoir une pratique physique hebdomadaire régulière. Et ça, c'est vraiment le message important qu'on peut faire passer.
D'accord. Michel Biard, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, moi je voudrais insister sur l'aspect lien social, hein, parce que bon, ce que ça apporte dans une association, c'est la rencontre avec les autres. On est dans une société qui est de plus en plus individualiste, donc c'est effectivement très important de pouvoir rencontrer d'autres personnes avec qui on partage les choses, ou avec qui on ne partage pas d'ailleurs, et avec qui on peut débattre. Pour revenir un petit peu, j'ai oublié de répondre sur ça tout à l'heure, sur l'aspect mobilisation. Hein. Au planning, on fait chaque année ce qu'on appelle un stage objectif et motivation, hein, de l'ensemble des adhérents. Alors, tout le monde n'y vient pas, mais ce stage, il a pour but de permettre de chacun d'exprimer pourquoi il est venu là, pourquoi il veut y rester, pourquoi il veut, éventuellement il n'y restera pas, ce qu'il n'y trouve pas. Donc là, cet aspect-là, à mon avis, est très important. Enfin, en tout cas, moi, le lien social, c'est absolument déterminant.
Patricia Kerry-Legrand, vous êtes à un poste d'observation privilégié quand même. Quelle vision vous avez de la vie associative dans le Gers? J'ai l'impression qu'elle est, dynamique, quand même assez foisonnante. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Oui, comme le disait ma collègue, nous sommes classés, je crois, au 7e rang national pour ce qui est des clubs sportifs. Donc, la vie associative dans le Gers, c'est très, très riche. Hein. On a un panel d'associations socioculturelles, sociales, humanitaires, sportives, qui est très, très, très important.
À quoi vous attribuez ça, vous le savez, ou à quoi vous attribuez ça? Est-ce que vous en avez une idée? Pourquoi c'est aussi...
Alors, on retrouve ça, effectivement, dans le monde rural, beaucoup dans le monde rural. Notamment, j'avais su, je ne sais plus en quelle année, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, que la Lozère avait été décrétée premier département français associatif. Donc, ça montre bien que dans le monde rural, on est en quête de ce lien social. Moi, j'insiste aussi, comme Michel Biard, si je devais dire à ceux qui pratiquent une activité sportive ou socioculturelle tout seul dans leur coin, que la première chose peut-être dans ce monde qui devient si difficile, c'est ce lien social. On partage quelque chose. Et moi, je voudrais dire que par là même, c'est une solution pour les bénévoles en activité aujourd'hui et les dirigeants de nos associations de remédier un petit peu à cette soi-disant crise du bénévolat, c'est de faire un projet. Un projet associatif au sein de son club ou de son association. C'est ce que disait Michel Barre à l'instant, quand elle disait on fait des rencontres pour savoir pourquoi on est là, ce qu'on veut faire. Eh bien, c'est ça le projet. Et par le biais du projet, qui est la vie, hein, le projet, on va faire en sorte que les adhérents soient des bénévoles, non plus venir se servir de quelque chose qui leur est offert par l'association ou le club, mais participer à la vie associative. Il faut faire un projet structuré, que bien sûr, auquel les bénévoles sont associés, qu'ils ont cherché ensemble, et monter ce projet et le faire vivre.
Et en quoi vous pouvez aider les gens, vous, des associations?
Alors voilà,
qu'est-ce qu'ils viennent vous demander en général, les gens?
Oui, de toute façon, au niveau du service donc de ma collègue Jeunesse et Sport, nous demandons maintenant à ce que tous les clubs aient un projet. Notamment, on les motive par le biais des subventions. Hein. Une subvention, maintenant, c'est
oui,
pour...
Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, le nerf de la guerre...
Le nerf de la guerre, voilà. Pour mener à bien un projet, voilà pourquoi aujourd'hui l'État donne une subvention. Hein. On ne donne plus des subventions de façon systématique, encore moins pour juste un fonctionnement de club. Mais c'est pour qu'un projet soit mis en place et que, bien sûr, les objectifs soient atteints à plus ou moins long terme. Alors, pour parler des subventions, bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui qu'elles diminuent. Hein. Nous sommes en période de crise, donc les budgets aussi de l'État dans ce domaine sont assez serrés. Et nous espérons, bien sûr, qu'en reciblant, par contre, les associations en activité sur leurs projets et sur la qualité des interventions, on arrivera à faire en sorte que ces subventions soient mieux données et puis, espérons, seront en augmentation dans les années à venir.
D'accord. Alors, nous sommes tous aujourd'hui sur la foire au sport avec un certain héroïsme, je dois dire, parce que le temps ne cesse de se gâter. Mais Philippe Marcelin est très optimiste, donc il pense que le soleil va pas tarder à revenir. Je l'espère avec lui. Pendant ces deux jours, vous êtes quand même de nombreuses associations ici sur ce site. Qu'est-ce que vous attendez les uns et les autres de ce rendez-vous pendant deux jours? Qu'est-ce que vous proposez? Puis qu'est-ce que vous avez le micro, monsieur Agostini, du basket?
Oui, on a le temps, on a le temps de s'associer aux diverses activités de nos clubs à travers le basket, mais ce qu'on leur demande aussi, et je rejoins ce qui vient d'être dit, il faut que chaque club ait un projet, il faut que chaque club ait un objectif clair et défini pour inciter les adhérents, d'abord pour que les adhérents apprécient la convivialité qui se trouve dans le club, et ensuite pour inciter les bénévoles à venir partager ce projet, quitte à proposer des éléments nouveaux, à l'enrichir, mais ça ne peut pas se faire sans avoir, je dirais, presque un idéal quoi, qui est dans ce projet. Donc pour nous, au niveau du basket, c'est indispensable. Et au niveau du comité départemental, on a fait le choix depuis deux ans maintenant de redistribuer au sein des clubs la partie de subvention que nous donne l'État. Et cette redistribution, elle ne se fait que sur la base de projets de club. Si le club n'a pas de projet, mais je suis désolé pour eux, mais ils n'ont pas droit aux quelques euros qu'on pourrait leur donner. Quoi. Donc pour moi, c'est indispensable qu'il y ait cette mise en situation de tous les clubs et cette envie des clubs de créer un projet pour l'avenir de leur sport. Hein.
Et sur la foire au sport précisément, vous faites quoi? Vous avez un stand et vous êtes là pour essentiellement donner de l'information, pour attirer des adhérents en plus?
Nous, au niveau du comité départemental, on est là aussi pour les aider. On leur propose d'aller dans leur club, de structurer leur organisation. S'ils ne nous sollicitent pas, c'est nous qui allons vers eux. C'est la raison pour laquelle nous mettons à leur disposition des salariés qui sont formés, qui sont compétents et qui vont dans les clubs, qui vont au-devant des clubs pour leur expliquer. Et je dois dire quand même qu'au niveau du basket, on a une adhésion, je dirais, assez importante sur les 32 clubs du département du Gers. C'est une grosse majorité qui adhère à cette situation. Ils sont très peu nombreux, ceux qui veulent jouer cavalier seul, je dirais. Mais il en existe malheureusement, mais ceux-là, ils sont voués à une mort certaine parce qu'ils vont avoir des difficultés pour avoir des adhérents, ils vont avoir des difficultés pour faire fonctionner leur club, tout simplement.
Donc, Monsieur Proust, la spéléologie, vous êtes une activité dont vous m'aviez dit qu'elle était un petit peu marginale parce qu'il n'y a pas beaucoup de pratiquants, mais qu'est-ce que vous expliquez de votre activité sur la foire au sport aujourd'hui? Vous êtes là pour chercher des adhérents, pour...
Nous sommes là pour communiquer au niveau de l'activité en elle-même, c'est-à-dire la spéléologie. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez envie de venir découvrir cette activité, venez, on va vous emmener une journée pour découvrir. On n'est pas là spécialement pour capter de l'adhérent, non, pas du tout. On est là pour plutôt communiquer sur ce que l'on fait. Nous avons effectivement aussi, nous, un projet qui s'évalue dans le temps. Et on vient ici sur la foire au sport pour que les gens puissent rencontrer cette activité qu'on ne rencontre jamais à Auch, puisque nous sommes sous terre ou dans Gers, ou souvent
oui,
dans les Pyrénées.
C'est la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas beaucoup de grottes dans le département, donc comment...
Il n'y en a pas beaucoup. Si vous verrez, il y a un livre qui va sortir où il y a, je crois, 80-90 cavités au moins, si ce n'est plus. Donc oui, il y a des cavités dans le Gers, donc on peut s'intéresser déjà à cette activité à travers, alors sur le plan scientifique, sur le plan géologique, sur le plan karstologique, mais aussi on a nos chauves-souris qui habitent là, donc voilà, la spéléologie c'est tout ça. Hein. On s'intéresse aussi à la faune, à la flore pas trop, hein, sous terre. Et comme nous sommes des gens de l'ombre, c'est le grand jour ou le grand week-end pour nous montrer à la foire au sport. Et d'habitude, nous évoluons dans un milieu très humide.
Souvent, oui, mais à l'abri de la pluie quand même.
Et nous ne sommes pas du tout dépaysés quand nous venons à la foire au sport. Et parfois, on pend des cordes sous l'arbre, mais on fait rarement de la spéléo dans les arbres. Je voulais revenir sur un sujet très important. Les gens qui viennent ici aujourd'hui pour adhérer à des clubs ont parfois oublié qu'ils vont adhérer à une fédération. Nous, la fédération de Spéléo et Canyon est extrêmement importante car elle nous permet de garder la possibilité d'aller dans des cavités ou des canyons qui sont souvent fermés par le propriétaire ou par l'État ou par le préfet, donc l'État, pour des mesures de sécurité ou autres. Et donc le fait d'adhérer à un club fait qu'on adhère à une fédération et derrière il y a effectivement l'assurance qui est souvent faite sur mesure pour l'activité, mais aussi il y a tout l'aspect qui permet l'activité d'exister et de perdurer.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette dimension de l'intérêt public, mais c'est vrai que les associations contribuent pour la randonnée à l'entretien des chemins ou à leur réouverture, pour vous peut-être aussi à la préservation de la nature. Enfin, je veux dire, il y a une notion d'intérêt public dans l'engagement dans une association.
Oui, oui, effectivement, il y a des conventions qui sont signées avec, par exemple, les eaux et forêts pour des accès à des cavités particulières ou dans des parcs nationaux, voilà. Et le fait qu'on appartienne à une fédération permet de signer des conventions avec des propriétaires privés ou publics. Quoi.
Oui, Michel Bien, vous alliez rajouter quelque chose. Le planning familial.
Oui, le planning familial, c'est sûr qu'on a une mission de service public hein, au regard de l'autonomie hein, par rapport à la sexualité des filles comme des garçons, au regard des droits des femmes, de l'égalité homme-femme, au regard de la lutte contre le sexisme, hein, qui est quand même quelque chose qui malheureusement continue à se développer.
Aujourd'hui, donc, sur la foire, vous êtes où ? Vous avez
Pardon
un stand sur la foire, vous êtes où aujourd'hui ?
On n'a pas de stand aujourd'hui, mais on est hébergé, entre guillemets, par l'université d'été du temps libre.
Voilà. D'accord, donc vous êtes
si
quand même...
certains veulent nous voir, c'est à l'UTL.
C'était voilà. Utile de le préciser. Monsieur Roch, je vois que vous faisiez des signes aussi. Monsieur Roch, du comité départemental olympique et sportif.
Oui, ce que je voulais ajouter, pourquoi adhérer ? Je crois qu'on l'a autour de nous. On a cette vitrine des sports où les enfants peuvent se renseigner sur une activité qu'ils voudraient pratiquer. Et il ne s'agit pas que d'une activité, c'est que derrière, il y a un club qui propose une activité, qui propose ou des activités. Et donc, c'est aux parents à aller voir, à aller se renseigner, s'inscrire ou inscrire leurs enfants. Et là, les gens qui sont déjà venus montrer ce qu'ils savent faire, c'est au moins qu'ils savent faire quelque chose. Donc on peut être tranquille, on peut, quand on va chez eux, on est sûr de trouver des gens compétents et des clubs qui... Je reviens surtout avec ça parce que c'est... De toute façon, et puis il y a des personnes qui veulent pratiquer de la compétition. S'ils veulent un classement, ils sont obligés de passer par un club. Autant il y a des sports comme l'athlétisme, l'escrime et autres qui proposent des classements par équipe et des classements individuels, mais il n'y a personne qui peut proposer un classement en indépendant. Quoi.
D'accord.
Donc... On retrouve encore ce...
Très bien. On s'approche peu à peu de la fin de cet entretien. Philippe Marcelin, vous êtes l'organisateur de la Foire au Sport. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette nouvelle édition ? Il y a, je crois, une cinquantaine d'associations qui sont quand même présentes ici. Est-ce qu'il y a une... Quel est votre message pour ce week-end, votre objectif ?
Bien, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été évoqué. Effectivement, sur cette thématique, adhérer à une association, c'est d'abord, je dirais, construire des citoyens, former à la responsabilité, éduquer aux valeurs. Voilà en ce sens ce qui est important et ce qu'il faut retenir à travers les différents échanges que vous avez évoqués. Nous, Office municipal des sports, notre objectif à travers cette manifestation, ben, c'est effectivement de traduire tout ce que vous avez avancé. C'est fédérer toutes les énergies, soutenir toutes les initiatives à travers les différentes structures associatives et quel que soit son domaine. Alors pour nous, effectivement, cette manifestation reste un moment fort de la vie associative en elle-même, mais surtout un moment fort pour proposer et faire part à la population locale des possibilités à travers la facilité d'accès, à travers la compétence des gens qui gèrent, qui encadrent. Et surtout, j'insiste sur ces valeurs, parce qu'effectivement, vous parliez d'une crise de société, vous parliez de contexte difficile, mais encore faut-il que nous soyons en mesure d'éduquer et de former à la base et d'exiger ce qu'on veut attendre des autres. Il faut d'abord l'exiger à soi-même. Et je crois que l'Office municipal des sports, à travers cette manifestation, et vous l'avez parfaitement manifesté à travers vos témoignages, voilà l'objectif de cette manifestation.
Monsieur Agostini, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, juste pour ne pas trop alourdir le débat, juste signaler que dans le cadre de la mission de service public qui est celle de la plupart des associations, nous sommes, nous, associations et comités départementaux, sollicités en ce moment dans le cadre des rythmes scolaires et oui, que nous mettons à disposition des mairies qui nous le demandent, des municipalités qui nous le demandent, nous mettons à disposition nos cadres professionnels pour intervenir dans les écoles. Voilà, je souhaitais le préciser parce que c'est une tâche qui nous occupe en ce moment de façon très, très prégnante.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça rappelle ô combien les associations pèsent, hein, dans la vie sociale, dans la vie économique et combien elles jouent un rôle important dans la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre participation les uns et les autres. C'est vrai qu'on n'est vraiment pas gâtés par la météo. Si ça peut vous consoler, la Dépêche du Midi vous offre 40 places pour le match FCAG Béziers qui a lieu demain après-midi. Alors ces places, vous pouvez aller les retirer sur le stand de l'OMS jusqu'à la fin de la journée, enfin plutôt jusqu'à épuisement des places, hein, donc ne tardez pas trop. Je vous remercie beaucoup d'être ici et puis je vous invite à lire la Dépêche et à participer à la Foire au Sport.
Oui, alors merci, effectivement, on est dans les remerciements et je renouvelle effectivement les remerciements à l'ensemble des structures présentes. Je remercie aussi notre partenaire presse qui est la Dépêche du Midi. Je remercie aussi, et je ne vais pas tous les citer parce que je vais certainement en oublier et ça serait très maladroit de ma part, mais je vais remercier aussi tous nos partenaires qui sont fidèles depuis des années. Désolé pour ce millésime 2013, Pascal Proust avait parlé effectivement qu'ils étaient habitués à l'humidité et c'était leur milieu de prédilection. Donc Pascal, je pense que pour ce week-end, vous allez être comblé. Merci beaucoup et bonne foire.